Chapitre 53. Cul-de-sac. 19h05, place de la cathédrale. Morton Nordrak marchait presque tranquillement place de la cathédrale. Il se savait recherché, mais prenait soin de toujours rester dans la foule, de se mêler à des groupes, de se dissimuler derrière des couples. Toutes les rues de Rouen étaient noires de monde. Comment quelques centaines de policiers pouvaient-elles le repérer? Les flics n'avaient aucun indice, à part sa taille et sa couleur de cheveux. Les clients du Libertalia avaient dû témoigner, mais depuis, il avait changé de t-shirt, troqué sa casquette contre un bandana. Non. Sauf incroyable malchance, il passerait à travers les mailles du filet. Il pourrait traverser Rouen en se fondant dans la foule et rentrerait tranquillement sur le Christian Radic. Une fois sur le voilier, il pourrait faire le point, réfléchir, attendre demain. Ou bien se lancer dans une dernière tentative. Il pouvait encore se servir de la moto, même si cela devenait très risqué. En dehors de Rouen, ça l'était moins. Plus qu'une journée. Lundi, il serait loin. Tant pis s'il ne repartait pas les poches pleines d'or. Au moins, il était vivant et libre. Il repéra un groupe d'une vingtaine de policiers, place de la Calande, qui se dirigeait dans sa direction. Depuis quelques heures, il avait appris à rester naturel, sans détourner la tête, sans avoir peur. Se déplacer simplement, repérer un groupe d'hommes assez grand, se mêler à eux. Ne pas rester isolé. C'était la seule règle, puisqu'il ne pouvait pas le reconnaître. À l'angle de la place, un groupe de pseudo-chanteurs péruviens soufflait dans des flûtes de pan devant un public assez dense. Une couverture idéale. Morton Nordrak se faufila dans l'assistance. Il suffisait d'attendre que la patrouille passe. Malgré son expérience, Morton Nordrak ne put néanmoins s'empêcher de jeter des coups d'œil discrets vers les policiers qui s'approchaient. Il ne risquait rien. Il n'était pas le seul à les observer. Les 20 flics armés jusqu'aux dents ne passaient pas inaperçus. Soudain, un frisson parcourut Nordrak, comme si on lui avait passé un glaçon sur la nuque. Fugitivement, ce flic l'avait dévisagé. Son regard avait scanné avec indifférence la foule d'aficionados et s'était arrêté sur lui. Pas plus de 2 secondes, certes, mais Nordrak l'avait immédiatement senti. Ce flic l'avait reconnu. C'était impossible. Ce portrait robot ne lui ressemblait pas. Et pourtant, ce même flic qui l'avait dévisagé se laissait petit à petit décrocher de la patrouille et attrapait son toki-woki. Nordrak s'extirpa du cercle de mélomanes sud-américains et s'engagea dans la rue du Gros Horloge. Il slaloma d'un pas rapide dans la foule qui se bousculait, sans ordre, dans l'artère la plus fréquentée de Rouen. Ne pas céder à la panique, ne pas courir, rester naturel. Ils ne peuvent pas me reconnaître. Malgré lui, il se retourna, ralentissant sa marche. Un corpulent touriste, arrivant en sens inverse, le bouscula, s'excusa dans une langue étrangère et repartit. Nordrak ne lui prêta aucune attention. Dans son dos, les policiers se déployaient. Les 20 policiers avançaient rue du Gros Horloge sur une même ligne, chacun espacé de moins d'un mètre, comme un filet tendu, filtrant les passants. Ils l'avaient repéré. C'était une certitude maintenant. Nordrak pensait rapidement. Si les flics dans son dos ne se pressaient pas, ne se lançaient pas à sa poursuite, c'est donc qu'il voulait simplement lui couper toute retraite. C'est donc qu'il savait qu'il n'y avait pas d'issue pour lui devant. Sa grande taille lui permit d'observer le bout de la rue par-dessus la foule. Face à lui, à moins de 100 mètres, une autre patrouille de policiers, également alignée sur toute la largeur de la rue piétonne, s'avançait vers lui. Il l'avait repéré, rabattu dans cette rue, piégé. Aucune issue, aucune retraite. Il n'avait plus le temps de se demander par quel miracle les flics l'avaient repéré. Il n'était plus temps de calculer, il fallait juste faire appel à son instinct de survie. Il n'avait qu'une certitude, les flics ne tireraient pas. La foule était trop dense. C'est pour cela qu'il l'avait ainsi piégé, pris en tenaille, pour se jeter sur lui à 40 sans avoir à sortir la moindre arme. Nordrak regarda de part et d'autre de la rue du Gros Horloge. La plupart des magasins commençaient à fermer. Ils n'étaient de toutes les façons que des cul-de-sac qui rendraient encore plus facile la tâche des policiers. Depuis ces quelques jours où il tournait dans Rouen, il avait eu le temps de connaître la ville. mieux que ses policiers peut-être, connaître ses pièges et ses raccourcis. Brusquement, il bouscula devant lui un gosse de 7 ans qui en laissa s'envoler son ballon de baudruche et un touriste asiatique qui tentait de prendre sa belle en photo devant le gros horloge. Il s'arc-bouta sur ses jambes et sprinta, écartant les passants comme s'il repoussait des épis dans un champ de maïs. Il entendit dans son dos le coup de sifflet, signal évident que 40 flics se mettaient à courir à ses trousses. Il ne releva pas la tête. Il fallait qu'il entre dans le magasin, le premier avant eux. Alors il aurait une chance.
Il est entré dans le Monoprix !
Hurla Joël Willig, le brigadier coordonnant l'opération.
Il est coincé, mais faites attention, il est armé !
Moins de 10 secondes plus tard, une trentaine de policiers, devant les yeux effarés des clients, investissaient le Monoprix. Les 10 autres bloquaient rue du Gros Horloge toutes les issues. Les policiers se déployèrent, armes au poing, inspectant méthodiquement chaque rayon, invitant les derniers clients à sortir sans panique. Nordrak était pris. C'était juste une question de temps, de méthode. La ligne de policiers continuait d'avancer, inspectant chaque mètre carré, fouillant méthodiquement les cabines d'essayage, de photomaton. Les caissières du Monoprix et les chefs de rayon, terrorisés, ne comprenaient pas ce qui se passait. Si ce n'est qu'il valait mieux ne pas bouger et ne pas poser de questions.
« Bordel, il n'a pas pu s'envoler !»
pesta un jeune agent. Ils cherchèrent encore de longues minutes. Joël Willig sentait que quelque chose lui échappait. Ils auraient déjà dû le repérer. Ce supermarché n'était pas si vaste. Ils étaient 30. Sans lâcher son talkie-walkie, il cria à l'attention des caissières apeurées à leur poste.
« À part la rue du Gros Horloge, il n'y a pas d'autres issues ?»
La caissière la plus à gauche du magasin leva un doigt timide plus qu'elle ne répondit et désigna une direction sur sa gauche.
« Nom de Dieu !»
hurla Willig. 20 policiers se précipitèrent dans la direction du doigt tendu, vers le recoin à gauche du magasin, derrière le rayon boulangerie. Ils poussèrent à la volée la porte de sortie et pointèrent leurs armes. Un couple âgé, occupé à charger des packs d'eau minérale dans leur 205, les regardèrent médusés. À part le couple de retraités, le petit parking d'une dizaine de places, raccourci peu connu des Rouennais permettant de rejoindre la rue aux Ours en coupant par le Monoprix, était vide. Joël Willig entendit, déjà lointain, le bruit du moteur d'une moto qui s'éloignait.
« Le salopard avait prévu son coup » pesta-t-il.
Résigné, il porta lentement le talkie-walkie à sa bouche.
« Inspecteur Stepanou, c'est Willig. On l'a perdu !»